Chapitre 15. Le mariage de la science et de l'Empire. Quelle est la distance du Soleil à la Terre? La question a intrigué nombre d'astronomes au début des temps modernes, notamment après que Copernic eut affirmé que c'est le Soleil, non pas la Terre, qui est au centre de l'univers. Un certain nombre d'astronomes et de mathématiciens essayèrent de calculer la distance, mais leurs méthodes donnèrent des résultats amplement variables. Au milieu du XVIIIe siècle, fut enfin trouvé un moyen fiable de procéder à la mesure. Régulièrement, à quelques années de distance, la planète Vénus passe directement entre le Soleil et la Terre. La durée du transit diffère quand elle est vue depuis des points éloignés sur la surface de la Terre en raison de l'infime différence d'angle sous lequel on l'observe. Si l'on effectuait plusieurs observations du même transit depuis différents continents, un simple calcul trigonométrique suffirait à établir la distance du Soleil à la Terre. Les astronomes prédirent que les prochains transits de Vénus se produiraient en 1761 et 1769. Des expéditions furent donc organisées depuis l'Europe vers les quatre coins du monde afin d'observer les transits depuis le plus grand nombre de points possibles. En 1761, les savants observèrent le transit depuis la Sibérie, l'Amérique du Nord, Madagascar et l'Afrique du Sud. À l'approche du transit de 1769, la communauté scientifique européenne consentit un effort suprême et des savants furent dépêchés jusque dans le nord du Canada et en Californie, alors déserte. À Londres, la Royal Society for the Improvement of Natural Knowledge, Société royale pour le progrès des connaissances naturelles, conclut que ce n'était pas suffisant. Pour obtenir les résultats les plus précis, il était impératif d'envoyer un astronome dans le sud-ouest du Pacifique. La Royal Society décida d'envoyer à Tahiti un astronome éminent, Charles Green, et ne ménagea aucun effort sur le plan financier. Vu le coût de l'opération, il n'y avait pas de sens à réduire la mission à une seule observation astronomique. Green fut donc accompagné d'une équipe de 8 autres savants de plusieurs disciplines, sous la houlette des botanistes Joseph Banks et Daniel Solander. Le groupe comprenait aussi des artistes chargés de réaliser des dessins des terres nouvelles, des plantes, des animaux et des hommes que les savants ne manqueraient pas de trouver. Équipés des instruments scientifiques les plus avancés que Banks et la Royal Society purent acquérir, l'expédition fut placée sous le commandement du capitaine James Cook, marin d'expérience mais aussi géographe et ethnographe chevronné. L'expédition quitta l'Angleterre en 1768, observa le transit de Vénus depuis Tahiti en 1769, alla à la découverte de diverses îles du Pacifique, visita l'Australie et la Nouvelle-Zélande avant de regagner l'Angleterre en 1771. Elle rapporta d'énormes quantités de matériaux astronomiques, géographiques, météorologiques, botaniques, zoologiques et anthropologiques. Ces découvertes apportèrent de grandes contributions à un certain nombre de disciplines, excitèrent l'imagination des Européens avec les stupéfiantes histoires du Pacifique Sud, puis inspirèrent des générations de naturalistes et d'astronomes. La médecine est un des domaines qui profita de l'expédition de Cook. À l'époque, les bateaux qui faisaient voile vers de lointains rivages savaient que le périple coûterait la vie à la moitié des membres d'équipage. La Némésis, ce n'étaient pas les indigènes en colère, ni les bâtiments de guerre ennemis ou le mal du pays. C'était un mal mystérieux, le scorbut. Frappés par cette maladie, les hommes devenaient léthargiques et déprimés. Leurs gencives et autres tissus mous se mettaient à saigner. La maladie progressant, ils perdaient leurs dents. Des plaies ouvertes apparaissaient. Ils devenaient fébriles, jaunissaient et perdaient la maîtrise de leurs membres. Entre le XVIe et le XVIIIe siècle, on estime que le scorbut coûta la vie à environ 2 millions de matelots. Nul ne savait quelle en était la cause, et malgré tous les remèdes essayés, les marins continuaient de tomber comme des mouches. Le tournant survint en 1747, quand le médecin britannique James Lind procéda à une expérience sous contrôle sur les matelots malades. Il les sépara en plusieurs groupes, administrant à chacun un traitement différent. Un des groupes tests reçut pour instruction de manger des agrumes, remède populaire courant du scorbut. Les patients de ce groupe ne tardèrent pas à se remettre. Lind ne savait pas ce qu'avaient les agrumes et qui manquait au corps des marins, mais nous le savons aujourd'hui, la vitamine C. L'alimentation typique à bord d'un navire à cette époque manquait notoirement de produits riches en ce nutriment essentiel. Dans les voyages de long cours, les matelots se nourrissaient habituellement de biscuits et de viande séchée, avec quasiment pas de fruits ni de légumes. Les expériences de Lind laissèrent sceptique la marine royale, mais James Cook fut convaincu. Il décida de montrer que le médecin avait raison. Il chargea à bord une grosse quantité de choucroute et ordonna à ses marins de consommer beaucoup de fruits et de légumes chaque fois qu'ils mettraient pied à terre. Le scorbut ne devait emporter aucun de ses marins. Dans les décennies suivantes, toutes les flottes du monde adoptèrent le régime nautique de Cook, sauvant ainsi la vie d'innombrables marins et passagers. L'expédition de Cook eut cependant un autre résultat bien moins bénin. Non content d'être un marin et un géographe expérimenté, Cook était un officier de marine. La Royal Society finança en grande partie les frais de l'expédition. Mais c'est la Royal Navy qui fournit le navire avec 85 matelots et fusiliers marins bien armés, ainsi que des pièces d'artillerie, des mousquets, de la poudre à canon et autres armements. Une bonne partie des renseignements recueillis par l'expédition, en particulier les données astronomiques, géographiques, météorologiques et anthropologiques, étaient sans valeur politique et militaire évidente. Mais la découverte d'un traitement efficace du scorbut contribua grandement à la domination des océans par la Grande-Bretagne et à sa capacité d'envoyer des armées au bout du monde. Cook revendiqua pour son pays nombre des îles et terres découvertes, à commencer par l'Australie. Son expédition jeta les bases de l'occupation britannique dans le sud-ouest du Pacifique, de la conquête de l'Australie, de la Tasmanie et de la Nouvelle-Zélande, de l'implantation de millions d'Européens dans les nouvelles colonies, mais aussi de l'extermination des cultures autochtones et de la majeure partie des populations indigènes. Dans le siècle qui suivit l'expédition de Cook, les colons européens privèrent les habitants des terres les plus fertiles de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. La population indigène chuta de 90% et les survivants furent soumis à un rude régime d'oppression raciale. Pour les aborigènes d'Australie et les Maoris de Nouvelle-Zélande, l'expédition de Cook fut le début d'une catastrophe dont ils ne se remirent jamais. Pire encore fut le destin des indigènes de Tasmanie. Ayant survécu à 10 000 ans de splendide isolement, ils furent tous éliminés. Un siècle après l'arrivée de Cook, hommes, femmes et enfants avaient disparu jusqu'au dernier. Les colons européens commencèrent par les refouler des parties les plus riches de l'île. Puis, convoitant même les parties désertiques restantes, ils les traquèrent et les tuèrent systématiquement. Les rares survivants furent parqués dans un camp de concentration évangélique où des missionnaires bien intentionnés, mais pas particulièrement ouverts, essayèrent de les endoctriner et de leur inculquer les usages du monde moderne. Ils voulurent leur apprendre à lire et à écrire, leur enseignèrent le christianisme, ainsi que diverses activités de production, en particulier la couture et le travail de la terre. Mais ils refusèrent d'apprendre. Ils devinrent encore plus mélancoliques, cessèrent d'avoir des enfants, perdirent le goût de vivre et finirent par choisir la seule issue pour quitter le monde moderne de la science et du progrès, la mort. La science et le progrès devaient hélas les poursuivre jusqu'après la mort. Anthropologues et conservateurs se saisirent des corps des derniers Tasmaniens au nom de la science, les disséquèrent, les pesèrent, les mesurèrent et les analysèrent dans des articles savants. Crânes et squelettes devaient être exposés dans les musées et les collections anthropologiques. C'est seulement en 1976 que le Tasmanian Museum accepta de se défaire à des fins d'inhumation du squelette de Truganini, la dernière indigène de Tasmanie morte un siècle plus tôt. L'English Royal College of Surgeons s'accrocha aux échantillons de sa peau et de sa chevelure jusqu'en 2002. Le navire de Cook était-il une expédition scientifique protégée par la force des armes ou une expédition militaire qui aurait embarqué quelques hommes de science? C'est l'histoire du réservoir d'essence à moitié vide ou à moitié plein. Ce fut les deux à la fois. La révolution scientifique et l'impérialisme moderne sont inséparables. Des hommes, comme le capitaine James Cook et le botaniste Joseph Banks, ne pouvaient guère distinguer la science de l'Empire. Pas plus que l'infortuné Truganini. Pourquoi l'Europe ? Que la population d'une grande île de l'Atlantique Nord ait conquis une grande île au sud de l'Australie est une des choses les plus bizarres de l'histoire. Peu de temps avant l'expédition de Cook, les îles britanniques et l'Europe occidentale en général n'étaient que des trous perdus, loin du monde méditerranéen. Ce qui s'y passait était sans grande importance. Même l'Empire romain, le seul empire européen prémoderne important, tirait l'essentiel de sa richesse de ses provinces nord-africaines, balkaniques et moyen-orientales. Les provinces ouest-européennes de Rome n'étaient qu'un pauvre Wild West, un ouest sauvage qui n'apportait pas grand-chose, hormis des minéraux et des esclaves. L'Europe était si désolée et barbare qu'elle ne valait pas même d'être conquise. C'est seulement à la fin du XVe siècle que l'Europe devint une pépinière d'innovations militaires, politiques, économiques et culturelles importantes. Entre 1500 et 1750, l'Europe occidentale prit son élan pour dominer le monde extérieur, les deux continents américains et les océans. Malgré tout, l'Europe n'était pas encore de taille à se mesurer aux grandes puissances d'Asie. Si les Européens réussirent à conquérir l'Amérique et à gagner la suprématie maritime, c'est surtout que les puissances asiatiques s'y intéressaient peu. Le début des temps modernes fut l'âge d'or de l'Empire ottoman en Méditerranée, de l'Empire safavide en Perse, de l'Empire moghol en Inde et des dynasties Ming et Qing en Chine. Ils étendirent sensiblement leur territoire et jouirent d'une croissance économique et démographique sans précédent. En 1775, l'Asie représentait 80% de l'économie mondiale. Les économies combinées de l'Inde et de la Chine représentaient à elles seules les deux tiers de la production mondiale. En comparaison, l'Europe était un nain économique. Le centre mondial du pouvoir ne se déplaça vers l'Europe qu'entre 1750 et 1850, quand les Européens humilièrent les puissances asiatiques dans une série de guerres et conquirent de vastes parties de l'Asie. En 1900, les Européens tenaient d'une main ferme l'économie mondiale et la majeure partie des terres. En 1950, l'Europe occidentale et les États-Unis représentaient à eux deux plus de la moitié de la production mondiale, alors que la Chine était tombée à 5%. Sous l'égide de l'Europe, émergea un nouvel ordre mondial et une culture mondiale. Aujourd'hui, bien plus qu'ils ne sont généralement prêts à le reconnaître, tous les êtres humains sont européens dans leur habillement, leurs pensées et leurs goûts. Ils peuvent bien être farouchement anti-européens dans leur rhétorique, presque toute la planète voit la politique, la médecine, la guerre et l'économie par les yeux des Européens, et écoute de la musique écrite sur des modes européens avec des paroles en langues européennes. Aujourd'hui encore, la foisonnante économie chinoise, qui pourrait retrouver sous peu la primauté mondiale, repose sur un modèle productif et financier européen. Comment la population de cette pointe glacée de l'Eurasie réussit-elle à s'extraire de son angle lointain de la planète et à conquérir le monde entier ? On en attribue souvent largement le mérite aux savants européens. Il est incontestable qu'à compter de 1850, la domination européenne reposa dans une large mesure sur le complexe militaro-scientifico-industriel et la sorcellerie technique. Tous les empires modernes qui réussirent cultivèrent la recherche scientifique dans l'espoir de moissonner les innovations techniques, et beaucoup de chercheurs passèrent le plus clair de leur temps à travailler sur des armes, des médicaments et des machines destinées à leurs maîtres impériaux. « Quoi qu'il arrive, nous avons des mitrailleuses, pas eux », aimaient à dire les soldats européens confrontés à des ennemis africains. Les techniques civiles n'étaient pas moins importantes. Les soldats se nourrissaient de conserves, chemins de fer et vapeurs transportaient les soldats et leurs provisions, alors qu'un nouvel arsenal de médicaments soignait soldats, matelots et machinistes. Ces progrès logistiques jouèrent un rôle plus significatif que la mitrailleuse dans la conquête européenne de l'Afrique. Mais ce n'était pas le cas avant 1850. Le complexe militaro-scientifico-industriel était encore dans la prime enfance. Les fruits techniques de la révolution scientifique n'avaient pas encore mûri. Et l'écart technique entre puissances européennes, asiatiques et africaines restait mince. En 1770, James Cook avait certainement des techniques bien meilleures que les aborigènes d'Australie, mais c'était aussi le cas des Chinois et des Ottomans. Alors, pourquoi est-ce le capitaine James Cook plutôt que le capitaine Wan Zhangse ou le capitaine Hussein Pasha qui explora et colonisa l'Australie? Qui plus est, si en 1770 les Européens ne disposaient pas d'un avantage technique significatif sur les musulmans, les Indiens et les Chinois, comment firent-ils, au cours du siècle suivant, pour ouvrir une telle brèche entre eux et le reste du monde? Pourquoi le complexe militaro-scientifico-industriel s'épanouit-il en Europe plutôt qu'en Inde? Quand la Grande-Bretagne fit un bond en avant, pourquoi la France, l'Allemagne et les États-Unis s'empressèrent-ils de suivre, tandis que la Chine resta à la traîne? Quand l'écart entre les pays industriels et les pays non industriels devint un facteur politique et économique évident, pourquoi la Russie, l'Italie et l'Autriche réussirent-elles à le combler alors que la Perse, l'Égypte et l'Empire ottoman échouaient? Après tout, la technologie de la première vague industrielle était relativement simple. Était-il si difficile pour les Chinois ou les Ottomans de concevoir des machines à vapeur, de fabriquer des mitrailleuses ou de poser des voies ferrées? La première ligne ferroviaire commerciale du monde ouvrit en Grande-Bretagne en 1830. En 1850, près de 40 000 km de voies sillonnaient les pays occidentaux contre 4 000 seulement dans la totalité de l'Asie, de l'Afrique et de l'Amérique latine. En 1880, l'Europe comptait 350 000 km de voies contre 35 000 dans le reste du monde, la majeure partie ayant été posée en Inde par les Britanniques. La première voie n'ouvrit en Chine qu'en 1876. Longue de 25 km, elle avait été construite par les Européens. Le gouvernement chinois la détruisit l'année suivante. En 1880, l'Empire chinois n'exploitait pas une seule ligne. En Perse, la première ligne ne vit le jour qu'en 1888, pour relier Téhéran à un lieu saint de l'islam situé à une dizaine de kilomètres au sud de la capitale. Elle fut construite et exploitée par une compagnie belge. En 1950, le réseau total de la Perse ne dépassait pas 2500 km dans un pays 7 fois plus grand que la Grande-Bretagne. Ni les Chinois ni les Perses ne manquaient d'inventions techniques comme les machines à vapeur qui pouvaient être librement copiées ou achetées. Ce qui leur manquait, c'était les valeurs, les mythes, l'appareil judiciaire et les structures sociopolitiques dont la formation et la maturation prirent des siècles en Occident et qu'il était impossible de copier et d'intérioriser rapidement. La France et les États-Unis marchèrent aussitôt sur les brisées de la Grande-Bretagne parce que les Français et les Américains partageaient déjà les mythes et structures sociales britanniques les plus importants. Les Chinois et les Perses ne pouvaient aller aussi vite parce qu'ils pensaient et organisaient leur société différemment. Cette explication éclaire d'un nouveau jour la période 1500-1850. Alors qu'ils ne jouissaient d'aucun avantage technique, politique, militaire ou économique sur les puissances asiatiques, le continent construisit pourtant un potentiel unique, dont l'importance devint soudain flagrante autour de 1850. L'apparente égalité de l'Europe, de la Chine et du monde islamique en 1750 était un mirage. Imaginez deux bâtisseurs construisant des tours très hautes. L'un utilise du bois et des briques debout, l'autre de l'acier et du béton. Au début, il semble qu'il n'y ait pas grande différence entre les deux méthodes, puisque les deux tours poussent à une vitesse semblable et atteignent la même hauteur. Sitôt franchi un seuil critique, cependant, la tour de bois et debout ne résiste pas aux tensions et s'effondre, tandis que la tour de fer et de béton pousse à vue d'œil, d'étage en étage. Quel potentiel l'Europe a-t-elle développé au début des temps modernes qui lui a permis de dominer le monde à la fin de cette période? Cette question admet deux réponses complémentaires, la science moderne et le capitalisme. Les Européens avaient pris l'habitude de penser et de se conduire de manière scientifique et capitaliste avant même de jouir d'un avantage technique significatif. Quand commença à pleuvoir la manne technique, les Européens purent en tirer parti mieux que personne. Ce n'est pas un hasard si la science et le capitalisme forment l'héritage le plus important que l'impérialisme européen ait légué au monde post-européen du XXIe siècle. L'Europe et les Européens ne dominent plus le monde, mais la science et le capital sont toujours plus forts. le chapitre suivant se penchera sur les victoires du capitalisme. Celui-ci est consacré à l'idylle de l'impérialisme européen et de la science moderne.